Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en cette fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous réfléchissions à la présence de notre Seigneur parmi nous, bien qu'il soit monté au ciel, puisque notre Seigneur dit à ses apôtres que quoi qu'il les quitte et qu'il les prive de sa présence visible, en réalité, il sera encore plus présent au milieu d'eux et avec eux, ne serait-ce que parce qu'il leur envoie le Saint-Esprit. Nous étions présents samedi dernier, toute la communauté, à une session de formation pour l'évangélisation des musulmans. Si je vous en parle, ce n'est pas pour vous raconter nos petites histoires, mais c'est parce que ces gens ont un regard très neuf et en même temps très frais et surtout très profond sur notre religion, parce que ils sont obligés d'aller à l'essentiel pour la présenter aux musulmans. Le drame de l'islam est de ne pas croire à la beauté de notre religion. Et heureusement, nous n'avons rien appris sur les mystères divins. Nous avons appris sur la méthode. Ça, c'est important parce qu'il faut une méthode. Mais mon but n'est pas de vous en parler là, parce que sinon je vous ferai une conférence sur la méthode d'évangélisation des musulmans. Mon but est de vous montrer ces lumières qui brillent d'autant mieux quand on les met devant un fond noir. L'islam est un fond noir et la lumière de la foi brille d'autant mieux. Comme tous les intervenants, que ce soit les formateurs, les apôtres ou les convertis, comme tous ont fait remarquer que les occidentaux et même un peu les catholiques étaient sclérosés dans leur religion, je pense que nous-mêmes, nous courons grandement le risque d'une certaine sclérose et que la tradition n'y échappe pas. Alors entrons dans le vif du sujet. La première chose qui nous a été dite, c'est que les mots, les réalités et même les personnages historiques n'ont pas la même signification pour les musulmans et pour nous. Ce n'est pas que je veuille vous faire un exposé sur les erreurs du Coran, là n'est pas la question. Mais ainsi, la première chose, la toute première chose qui nous a été dite, Abraham n'est pas le même pour nous les chrétiens et pour les musulmans. Pour nous les chrétiens, il est celui qui nous introduit dans l'alliance avec Dieu. Le musulman ne croit pas à l'alliance, c'est pas possible. Le musulman est un esclave de Dieu, voire même une simple marionnette. Pour le musulman, Dieu est tellement puissant que vouloir entrer tellement grand, que vouloir entrer dans les secrets de Dieu n'est pas possible, ça serait rabaisser Dieu. Vouloir comprendre l'action de Dieu, ça serait rabaisser Dieu. Le musulman est incapable de comprendre que Dieu est tellement puissant qu'il est capable d'élever l'homme. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce que Dieu fait dans l'alliance avec Abraham. Il révèle cette alliance qui avait quand même déjà commencé avec Adam. Il révèle, il fait prendre conscience de l'alliance qu'il a conclue avec les hommes. Et s'il a conclu avec Abraham, c'est pour qu'Abraham forme le peuple élu qui va préparer à l'alliance de Jésus-Christ, mais n'anticipons pas. Et ça, c'est très important. Nous avons du mal à voir l'importance de l'alliance. Le mot nous fait peur, parce que c'est un mot de l'Ancien Testament, parce que c'est un mot utilisé par les modernistes, souvent. Mais déjà, prendre conscience qu'il y a une alliance, ça a beaucoup de conséquences, cela. Ça veut dire que Dieu nous met à son niveau, comme ce n'est pas lui qui s'abaisse, il nous élève. C'est la deuxième conséquence. Enfin, voilà, il nous met à son niveau. Deuxièmement, nous allons réfléchir à la nature de cette alliance. Parce que s'il y a alliance, il y a communication. Et dès le début, à cette session, on nous a dit « Dieu se communique ». C'est extraordinaire. Troisièmement, s'il y a une alliance, il y a un but. Et comme Dieu veut reconquérir le monde et qu'il le reconquiert par son Fils, la troisième question à nous poser, c'est comment vais-je être fidèle à l'alliance en reconquérant le monde à Jésus-Christ ? Abraham est sorti, a reçu l'ordre de Dieu de sortir de sa ville et même de sa famille, de sa maison. Marche en ma présence, Dieu lui a dit marche. Il lui a... Voilà. En ma présence, bien entendu, il y a une vie intérieure. Ça va être les deux parties de ce sermon. L'alliance et la vie intérieure. En ma présence, c'est la vie intérieure. Mais marche et non pas repose-toi. Et il faut que nous fassions à cela. En réalité, nous le savons. C'est le principe et fondement de saint Ignace. L'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu. Et par ce moyen, sauver son âme. Et donc normalement, nous devrions avoir compris cela. Malgré tout, comme je vous le disais, la mise en valeur de ces vérités présentées très simplement face à l'islam qui est grossier dans sa croyance, nous permet de mieux saisir la lumière de ces mystères. Il est évident que l'alliance avec Abraham est une préparation de l'alliance avec Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, une alliance qui est pas infiniment supérieure, parce que Abraham préparait Jésus-Christ. Abraham a vu mon jour, dit Jésus-Christ. Abraham a vu mon jour. Et c'est parce qu'il a vu Jésus-Christ qu'il a conduit son peuple. Et c'est parce que les prophètes ont vu Jésus-Christ qu'ils ont conduit leur peuple. Toute l'ancienne alliance est tournée vers le Christ. Dieu, Dieu-homme. Tous les prophètes sont tournés vers l'incarnation et la rédemption. Et donc il y a une nouvelle alliance. Et il faut bien la voir également. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas seulement quelqu'un qui jouit de Dieu, il est quelqu'un qui est dans l'alliance de Dieu. Et nous serons jugés sur cela. Venez à ma droite, les bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité, vous m'avez soigné, etc. Cette alliance, voyez, nous, est importante et elle nous permet de prendre conscience de l'action de Dieu en nous. Dès le début, cela nous a été rappelé également. Dieu est la cause première, mais nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes des causes secondes. Une cause, ça cause, c'est-à-dire que ça a un effet. Pour le musulman, non, il n'y a que Dieu qui produit des effets. Nous ne sommes rien. Et donc il y a une dignité, une collaboration. Quelle est la nature de cette alliance ? C'est une alliance dans la charité avec Dieu en Jésus-Christ. Et cela, c'est le deuxième aspect que je voudrais que vous considériez, mes bien chers frères. Pour cela, c'est tellement important que ces apôtres du catholicisme auprès des musulmans ont mis au point une méthode, donc très simple, hein, qui n'est pas compliquée du tout, mais qui est importante parce que ils nous l'ont fait remarquer, si vous n'avez pas de méthode, vous ne pouvez pas être fidèle à l'alliance. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul, hein. Et dans cette méthode, il pose des questions aux musulmans. Parce qu'il faut sortir le musulman de ses certitudes, son aveuglement. Le démon aveugle les musulmans. Et pour les sortir de leurs certitudes, il leur pose des questions. Qu'est Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu pour toi? Et en entendant cela, je me disais, si l'on posait cette question aux bons catholiques et même aux traditionalistes, qu'est Dieu pour toi? Il pose également la question, quelle est la nature de tes rapports avec Dieu? Là, le musulman est effaré. Qu'on ose pénétrer les secrets de Dieu, comme il n'imagine pas que Dieu puisse nous élever, il imagine que nous rabaissons Dieu. Mais lorsque le catholique lui répond, mais moi, j'entre en rapport avec Dieu. Moi, je le connais, Dieu. Jésus, qui est Dieu, m'a dit qu'il nous appelait ses amis et non plus ses serviteurs. Et il a précisé pourquoi? Parce que l'ami sait ce que fait son maître, son ami, pardon, tandis que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Nous sommes entrés dans les secrets de Dieu. Dieu nous les a révélés. Et cette vie intérieure est une vie d'amitié avec Jésus-Christ. Et dans l'amitié, tout est commun. Dieu se communique à travers Jésus-Christ et il nous demande d'entrer dans cette communication et c'est cela l'amitié. Certainement, il y a eu un problème au XXe siècle, peut-être même avant. C'est une certaine sclérose de la foi chrétienne. Heureusement, il restait beaucoup de catholiques qui, eux, n'étaient pas sclérosés. Quand vous avez cette centenaire qui est, il y a quelques années, qui était interviewée par un journaliste, et comme elle avait bonne santé, mais que malgré tout, elle ne bougeait plus beaucoup, le journaliste lui dit, mais madame, vous ne vous ennuyez pas toute la journée? Alors elle lève la main, au bout de laquelle, enfin, dans laquelle elle tenait son chapelet, elle lui dit, mais monsieur, avec cela, comment voulez-vous que je m'ennuie? Donc il ne faut pas croire que tous les catholiques étaient sclérosés. Malgré tout, il y avait une certaine sclérose, et probablement dans la hiérarchie. Probablement. Les évêques nommés par les gouvernements étaient de moins en moins spirituels. Alors vous avez deux réponses à cela, deux réponses fausses, et puis vous avez une troisième réponse qui est la vraie. Vous avez deux réponses fausses. Vous avez le modernisme. Le modernisme, alors on cherche tellement la vie dans la religion, que chacun fait sa religion à sa guise. Alors, quelle la religion pour toi? Quel Dieu pour moi? Alors, ben, il est tout parce que c'est moi qui l'ai fait. Alors là, ça, c'est les modernistes. Vous avez l'autre réponse, qui est la réponse charismatique, qui est la réponse sentimentale. Parce qu'on n'entre pas dans la réalité, dans la foi, avec intelligence, alors du coup, on reste au niveau des sentiments. Un des convertis nous a dit que sa mère était affolée, qu'il ait osé se convertir à la foi chrétienne. Que lui a-t-il répondu? Il lui a répondu, Maman, mais réfléchis, fais usage de ton intelligence. Vous avez un homme qui a une profession modeste, qui n'a guère fait d'études, mais qui a médité. Et cela, c'est frappant de voir comme ils méditent l'Évangile, tous. Ils connaissent l'Évangile, ils méditent l'Évangile, ils comprennent l'Évangile. Ils se mettent toujours sous le regard de Dieu. Le principal formateur nous a dit, le principal apôtre, Jean-Yves Nériec, nous a dit quand il s'adresse à un musulman, qu'il discute avec lui et que le musulman fait des objections, et lui dit: mais rends-toi compte, c'est un moment d'éternité que nous vivons actuellement. Dieu a prévu cela, c'est lui qui t'a attiré. Oh, le musulman dit: mais comment c'est possible? Et Neriek lui dit, mais il lui cite la prière sacerdotale de Jésus le jeudi saint au soir. Je ne prie pas seulement pour eux, dit-il à son père, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui, par leurs paroles, te connaîtront. C'est-à-dire que Jésus-Christ a déjà prié pour ceux auprès de qui nous sommes envoyés. Et vous avez des hommes qui, faisant oraison tous les jours, sont constamment sous le regard de Dieu et sont constamment conscients de l'influence de Dieu, de l'action de Dieu dans leur vie. Alors, c'est autre chose que du sentiment. Et vous avez donc un homme simple qui est capable de dire: fais usage de ton intelligence. Mais cela, on ne l'entend plus jamais, même dans la tradition. Le mot intelligence est un mot qu'on n'entend presque plus. Quelle est la véritable réponse alors au-dessus de la fausse réponse moderniste et de la fausse réponse charismatique? Charismatisme qui envahit même les catholiques. Hein. C'est un grand succès aujourd'hui. Parmi les assistants, je pense qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas à la hauteur de ces formateurs, pour la plupart convertis. Enfin, il y en avait certains qui n'étaient pas à la hauteur, qui étaient très pénétrés de sentimentalité, de sentimentalisme, qui dégénère souvent en œcuménisme, voire de charismatisme. Enfin, heureusement, il y en a qui, je pense, ont compris l'enjeu. La vérité, c'est que nous vivons réellement de la vie divine. Le formateur nous a dit: le ciel, beaucoup de chrétiens croient que c'est pour plus tard. Ils ne se rendent pas compte que nous possédons déjà le ciel. Par la foi, nous sommes déjà entrés dans la vision des saints. La vision que les saints ont sur Dieu au ciel, nous l'avons nous aussi. Elle est voilée un peu. Le musulman a peur de l'enfer et il craint d'être damné. Et Neriek nous a dit: nous possédons déjà le salut. Nous risquons de le perdre, nous pouvons le perdre. Mais c'est pas pareil de se dire: je ne l'ai pas et je ne suis pas sûr de l'avoir, et de se dire: je l'ai et si je fais des bêtises, je le perds. C'est une chose que Mgr Lefebvre nous rappelait souvent, cela. La foi et la grâce nous mettent déjà au ciel. Cette vie est une vie dans la charité. C'est une vie en Jésus-Christ. Alors là, nous retombons sur des choses connues, mais si je vous en parle, c'est qu'il faut leur donner vie. Et il faut faire attention que dans les sacrements, vous avez l'aspect extérieur et l'aspect vital, intérieur, de charité, d'union à Dieu. Le sacrement est un moyen, il est même un signe, est un moyen matériel. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons nous attacher aux moyens matériels, concrets, visibles, et puis ça ne sera plus la religion chrétienne. Et dans les épreuves actuelles de l'Église, si Dieu les a permises, il ne s'agit pas de les fuir, parce qu'il y a une alliance. Et à cause de cette alliance, si Dieu, dans son alliance, nous dit, comme à Abraham: sors de ta ville, sors de chez toi, va, marche en ma présence. Il ne s'agit pas de lui dire: Seigneur, j'étais si bien chez moi. Il ne s'agit pas de lui dire: Seigneur, j'étais si bien dans mon église. Je parle du temple de Pierre, parce que l'église de Dieu, nous ne la quitterons jamais. Il y a des moments où Dieu nous dit d'édifier des belles cathédrales, et il y a des moments où il nous dit: sors de chez toi. Là-dessus aussi, il faut que vous réfléchissiez. Et certains ont été surpris que J'ose dire, sors de chez toi, répéter, sors de chez toi. Ne va pas avec ceux qui trahissent. N'allez pas, mes bien chers frères, ni avec les traîtres, ni avec les alliés des traîtres. Et beaucoup se disent, mais qu'allons-nous devenir? Mais nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à vous de réfléchir. Je termine avec un mot sur la très sainte Vierge. Lorsqu'on médite, comme ces gens méditent, la très sainte Vierge reprend tout de suite sa place qui est de nous mener au Christ. Et les musulmans n'arrivent pas à croire à la rédemption, et encore moins que le Fils de Dieu puisse mourir sur la croix. Et alors Neriek a une réponse qui est toute simple, et lui dit, mais il dit aux musulmans qui le nient, Marie était la mère de Jésus. Elle sait très bien qui est son fils. Et tu crois qu'elle ne l'a pas reconnu sur la croix? Alors c'est ça que nous devons lui dire, nous aussi. Vous, vous connaissez votre fils. Alors faites-le moi connaître. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.